Radio Kapi. Le journal Belinda Musuma.
Plus de 3 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans attendus pour le vaccin contre la rougeole et la rubéole. La campagne a été lancée hier à Bunia par l'UNICEF et les autorités provinciales de l'Ituri. Téné, depuis début 2025, l'Ituri a enregistré plus de 1400 cas de rougeole avec 2 décès. Kigali relance les critiques contre Kinshasa. Dans une conférence de presse hier, le président rwandais accuse le gouvernement congolais de refuser d'assumer ses responsabilités. En réponse, Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Et puis, ce matin, nous recevons Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Cette ONG et ses alliés exigent la réparation des méfaits de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert en Ituri et Édouard au Nord Kivu. Pour ce faire, ils ont introduit un contentieux climatique à la Cour de justice de l'EAC. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans sont attendus pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la rubéole. Le lancement officiel de cette campagne qui concerne les 36 zones de santé de la province a eu lieu hier à Bunia. Pour assurer son succès, l'UNICEF, les autorités provinciales et les responsables sanitaires appellent à la mobilisation de toutes les couches de la société afin d'encourager les parents à présenter leurs enfants à la vaccination. Le point de la situation avec Jean-Claude Loki.
Depuis le début de cette année, l'Ituri a enregistré 1434 cas de rougeole avec 2 décès parmi les 48 patients testés positifs. À ce jour, quelques 3 165 000 enfants ont été recensés. Le docteur Jean-Luc Nguna, chef intérimaire de la division provinciale de la santé, insiste sur la nécessité de recevoir ce vaccin.
La rubéole, qui est une maladie courante, qui est bénigne, qui présente des symptômes similaires à la rougeole et qui, chez les femmes enceintes, peut provoquer des malformations congénitales chez les fœtus, comme la surdité, les maladies du cœur, ainsi de suite.
Pour Ella Skiri, chef de bureau de l'UNICEF à Bunia, partenaire technique et financier de l'opération, la réussite de cette campagne repose sur l'implication de tous. Elle appelle donc à une forte mobilisation communautaire afin qu'aucun enfant ne soit laissé de côté.
Nous exhortons les leaders d'opinion, les autorités coutumières et les organisations de la société civile. Mobilisez vos communautés et combattez la désinformation. La vaccination est le droit le plus fondamental de votre enfant à une vie saine.
Près de 4600 sites de vaccination ont été aménagés afin de faciliter l'accès des enfants au vaccin. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Du côté de Matadi, dans le Congo central, les parents sont appelés à faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. Hier jeudi, des jeunes volontaires de la structure U-Report, soutenus par l'UNICEF, ont organisé une activité de sensibilisation en marge de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, campagne lancée le même jour sur toute l'étendue de la province. Objectif, renforcer l'adhésion des familles à la vaccination et contribuer pas à pas à l'éradication de la maladie au Congo central. Nana Pluriche Mambou pour les détails.
Pour les comités nationaux de pilotage du projet U-Report qui organise cette activité en partenariat avec l'UNICEF, à l'heure où la poliomyélite continue de menacer la santé des enfants du Congo central, particulièrement à Matadi où quelques cas ont été signalés, la mobilisation de ces jeunes e-report apparaît plus que jamais essentielle. Leur engagement sur terrain avant le passage des vaccinateurs, combiné aux efforts du personnel de santé, constitue un levier déterminant pour atteindre chaque famille, renforcer l'adhésion à la vaccination et ainsi contribuer pas à pas à l'éradication durable de la poliomyélite au Congo central. Cette campagne de sensibilisation intervient dans le cadre de la campagne de vaccination dont le lancement a eu lieu ce jeudi à Matadi. Une initiative saluée par plusieurs familles qui accueillent chaleureusement ces jeunes sensibilisateurs.
J'ai vraiment bien aimé la sensibilisation de la part de e-report pour la vaccination de nos enfants pour lutter contre les polio.
La mobilisation se poursuit dans l'objectif d'atteindre 924 868 enfants de 0 à 59 mois et de couper la chaîne de transmission dans la province. Avant leur déploiement sur terrain, ces jeunes e-report ont été dotés d'outils permettant de renforcer les activités de vaccination, notamment à travers une communication interpersonnelle efficace auprès des familles et des communautés. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Notez que dans la province du Congo central, plus de 900 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés par cette campagne de vaccination. Les agents de santé feront du porte-à-porte pour atteindre un maximum d'enfants. Je vous le disais en titre, Paul Kagame relance les critiques contre Kinshasa. Le président rwandais a de nouveau pris la parole sur la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une conférence de presse tenue hier, il accuse Kinshasa de refuser d'assumer ses responsabilités afin de mettre fin au conflit, notamment en rejetant toute négociation avec les rebelles du M23. Vous le savez, selon plusieurs rapports des Nations Unies, ce groupe rebelle bénéficie du soutien de l'armée rwandaise. Des accusations que Kigali nie systématiquement. Interrogé sur la réouverture de l'aéroport de Goma, souhaitée par Paris et Kinshasa pour des raisons humanitaires, Kagame a estimé que la question devait être discutée directement avec les rebelles qui contrôlent la ville. Et réponse du berger à la bergère, Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, réagissait hier jeudi aux déclarations de Paul Kagame qui accuse la RDC de refuser d'assumer ses responsabilités. Pour Patrick Muyaya, au contraire, Kagame est le géniteur, le père du groupe rebelle M23. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
J'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lequel nous sommes engagés. Hier, je le disais que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix reviennent dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons et dans le strict objectif de semer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important, chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. L'unité nationale, c'est les socles qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression.
Autre nouvelle, le gouvernement congolais s'engage à accorder la chance égale à tous les jeunes d'accéder à l'emploi décent. C'est ce qu'a dit le ministre de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba. C'était lors d'un briefing de presse mercredi avec son collègue de la communication et médias. Le ministre Justin Kalumba a annoncé par ailleurs que l'Office national de l'emploi a la connotation égalité pour éviter des recrutements identitaires et surtout basés sur le népotisme et le tribalisme, cela sans tenir compte de la compétence personnelle. Un extrait des propos du ministre Justin Kalumba, sélectionné par Blaise Shindani Kambala.
Il faut permettre à ce que nos jeunes accèdent à des emplois décents et durables et qu'ils fassent une politique cohérente de leur cursus professionnel. Et c'est pour ça que nous avons regardé de bout en bout les problématiques liées à l'accès à l'emploi, même dans les secteurs publics. Je pense que les Congolais savent, pour avoir un emploi, même dans une entreprise du portefeuille de l'État, il faut avoir un frère qui est soit DG, soit ministre, soit député. Mais est-ce que tous les 110 millions de Congolais ont des frères députés, ministres, DG? Donc il faut arriver à enrayer les discriminations liées à ces choses. C'est pour ça qu'on a fait des préconisations intéressantes. La première, l'Office national de l'emploi, qui fonctionne de manière aujourd'hui pas cohérente, va devenir Office national de l'emploi et de l'égalité des chances. Parce que le chef de l'État a beaucoup insisté sur la nécessité d'établir des règles qui permettent à ce qu'il y ait égalité des chances d'accès à l'emploi pour tous les jeunes. Et ça, nous martelons là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va faire recours à des CV pour emploi qui sont anonymes et qui ne renseignent pas sur les origines, les provinces, les tout.
Dans l'actualité aussi, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, appelle à l'amélioration de la gouvernance fiscale des communes de Kinshasa. Ceci est contenu dans son rapport d'enquête publié mercredi à Kinshasa. Un expert anticorruption estime nécessaire que les communes bénéficient des moyens adéquats de leur politique via la rétrocession. Ce rapport d'enquête préparé par l'ONG Participe GmbH concerne 6 communes pilotes de Kinshasa, à savoir Gombe, Kassavu, Vubu, Lemba, Kimbanseke, Massina et Nsele. Des précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Réalisée entre mai et septembre 2025, cette enquête de CREFDEL vise à contribuer au développement économique et social durable de la RDC conformément aux stratégies de l'Union européenne qui consiste notamment à réduire les inégalités sociales. Cette étude de 4 mois révèle entre autres l'absence d'une budgétisation crédible, les faibles degrés de collaboration entre les services taxataires et les centres d'ordonnancement et l'absence de fichiers à jour des assujettis dans les communes de la capitale. Selon Mario Caivano Gracia de l'Union européenne, cette étude attend renforcer la gouvernance locale.
L'enquête s'inscrit aussi dans le cadre de l'appui que l'Union européenne apporte à l'ADC pour appuyer la décentralisation financière et renforcer la gouvernance.
Les présidents des conseils communaux de Kinshasa promettent leur contribution au redressement de la bonne gouvernance au niveau des communes kinoises. Pour sa part, Paulin Kibendeloa, expert anticorruption au sein des CREFDEL, plaide pour la digitalisation des circuits de mobilisation des recettes au niveau de ces communes. Il encourage en outre les gouvernements provinciaux de Kinshasa à reverser la rétrocession afin de donner à ces entités les moyens de leur politique. Pour un développement harmonieux et durable des communes de la capitale, CREFDEL recommande la poursuite de l'installation des autorités locales élues, notamment les bourgmestres et leurs adjoints, ainsi que les conseillers urbains et communaux.
Et puis, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, veut instaurer un climat de paix et de confiance susceptible de permettre le développement des activités dans les aires protégées. C'est dans ce cadre que s'est tenu un dialogue communautaire entre le parc national de la Maïko et les communautés riveraines de ce domaine à cheval entre les provinces du Nord Kivu, du Maniema et de la Tchopo. Ces assises de 2 jours se sont déroulées du 26 au 27 novembre à Kisangani. Mais qu'est-ce qui justifie la tentative de rapprochement des parties en présence, Jacques Moukonkolé?
Depuis sa création en 1970, les relations entre le parc de la Maïko et les communautés riveraines n'ont jamais été au beau fixe. En cause, l'interdiction aux communautés locales à accéder dans le parc pour la jouissance de leurs forêts. À présent, les responsables du parc veulent promouvoir la gouvernance participative et inclusive des parties prenantes pour une meilleure gestion de ce domaine afin de répondre aux exigences modernes d'une aire protégée, explique son directeur Mathieu Mirambeau.
On veut quand même réunir tout le monde autour des tables pour permettre à discuter, savoir les besoins de la communauté. Parce que le développement dépend d'un peuple à l'autre. Ce n'est pas moi le gestionnaire qui vient imposer à la communauté que voilà ce que nous allons faire pour vous. Mais dès que nous avons des moyens qui sont consacrés pour l'accompagnement de la communauté, on ira vers la communauté.
De leur côté, les communautés des bases se disent prêtes à coopérer. Toutefois, des mesures palliatives aux restrictions des activités dans le parc doivent être envisagées et concrétisées selon Ngomiangi Lengwamene, président des communautés de Bafouassende.
On ne peut plus pêcher là-bas, on ne peut plus chasser là-bas, on peut plus continuer à faire l'exploitation minière. Alors, il faut une certaine compensation.
Selon le directeur du parc, ce processus sera facilité grâce à la signature par l'UCCN d'un accord de partenariat public-privé avec le Fonds Faune et Flore International pour la recherche des fonds nécessaires aux atteintes des objectifs de cette aire protégée. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, les ouvriers qui ont construit le bâtiment abritant l'école primaire 3 Manika au village Kalongo dans le territoire de Moba dans le cadre du PDL 145 territoire ont vandalisé le bâtiment mercredi. Ces agents qui font pression à l'entreprise Safrikas qui les a employés réclament leur salaire de plusieurs mois. Paul Mounanga, reportage.
Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit des personnes en train d'arracher des portes et fenêtres du bâtiment récemment construit qui abrite l'école primaire 3 Manika. D'autres personnes sur place tentent de les dissuader de ne pas emporter ces matériaux. Placide Muyumba, point focal de l'ONG Young Men Action for Education, condamne cet acte mais il appelle Safrikas à régler les problèmes de ses employés.
Nous sommes en train de condamner d'abord les auteurs de ces actes de vandalisme. tourisme qui normalement devaient passer par une procédure légale pour réclamer leur gain de cause. Nous condamnons également Safricas qui jusque-là affiche une mauvaise volonté de ne pas vouloir libérer l'argent de ses agents qui se sont donné corps et âme de travailler.
Nous n'avons pas pu entrer en contact avec les responsables de l'entreprise Safricas à Kalemi. Pour Abraham Gongo, sous-prévôte de l'enseignement Moba 2 qui est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation, ces ouvriers ne sont pas payés depuis mars dernier. Ainsi, ils se sont décidés d'enlever les portes et fenêtres du bâtiment uniquement pour faire pression à l'entreprise. Il précise que ces ouvriers, qui sont plus de 200 au total, dont ceux venus de Kinshasa, vivent dans des conditions très précaires. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Le président Bola Tinubu a décrété cette semaine l'état d'urgence sécuritaire national, mesure consécutive aux attaques qui frappent simultanément plusieurs régions du centre-ouest au nord-est. Tenez, des élèves et des enseignants ont été kidnappés dans l'état de Niger, des lycéennes enlevées dans le Kebbi, fidèles pris pour cible au Kwara et jeunes filles dans le Borno. Pour répondre à cette crise, le chef de l'État lance une refonte complète des forces de l'ordre. L'armée et la police sont appelées à recruter 20 000 agents supplémentaires en plus des 30 000 déjà approuvés. Par ailleurs, il met fin aux escortes policières pour personnalités publiques et célébrités afin de redéployer des milliers d'officiers vers les zones à haut risque, répondant ainsi aux critiques sur la mauvaise répartition des effectifs.
L'invité.
Il s'agit du secrétaire général de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Maître Olivier Ndole parle du contentieux climatique introduit par son organisation et ses alliés à la Cour de justice de l'EAC contre la RDC, l'Ouganda et le secrétariat général de l'EAC. Et c'est dans le cadre de la campagne Notre Terre sans pétrole. Maître Ndole est avec Bernard Nyangi.
Maître Olivier Ndole, bonjour. Pour commencer, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui justifierait votre contentieux introduit à la division de première instance de la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est?
Comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait partie membre de East Africa, comme l'Ouganda et bien d'autres États. Et à cette Cour, que ce soit l'ACDH qui est une organisation qui a une résidence au niveau de l'un des États, donc la compétence est là et même les autres acteurs aussi en font partie. Et donc, c'est un droit reconnu à tout citoyen, donc, de saisir le mécanisme en termes de contentieux climatique dans notre droit positif interne, comme au niveau communautaire, au niveau, si vous voulez, de la charte de l'EAC, c'est reconnu. Et aussi, l'autre aspect, c'est qu'il y a des faits qui ont été certifiés par un rapport d'experts qui attestent réellement que certains effets liés à la production de pêche, mais aussi sur la pollution et bien d'autres, les éléments qui sont déjà consignés dans un rapport d'experts sont liés à l'exploitation du pétrole du côté de l'Ouganda. Et par rapport à la sauvegarde sociale et environnementale, le fait qu'il n'y a pas non seulement une étude d'impact environnemental qui couvre les aspects transfrontalières susceptibles d'impacter la RDC, mais aussi il n'y a jamais eu de consultation des communautés congolaises. Tous ces éléments constituent des motifs judiciaires pour aller réclamer des réparations sur le plan judiciaire au niveau de la sous-région et donc aider les communautés à recouvrer leurs droits.
Et votre plante cible à la fois la RDC, l'Ouganda et le secrétariat général de l'EAC. Pourquoi?
Comme vous le savez, la RDC État, notre État, devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger non seulement nos communautés, mais aussi protéger nos écosystèmes. Comme vous le savez, cette partie-là du Rift Albertain, vous avez le lac Albert qui constitue une assiette en termes de moyens de subsistance essentiels, mais aussi en termes de contributions sur les plans climatiques importantes, avec une forêt, une connexité jusqu'au niveau du lac Édouard avec les parcs nationaux de Virunga, une biodiversité exceptionnelle, sur base des engagements sur les questions climatiques, y compris même la réduction de l'utilisation des énergies fossiles, la RDC devrait réclamer la protection pour ses communautés, mais aussi exiger toutes ces études prenant en compte des mesures de mitigation du côté de la RDC tenant compte que ce projet s'exerce dans une zone transfrontalière. Et donc, la RDC est responsable de par son omission. L'Ouganda, c'est l'État où s'exerce cette exploitation et qui n'a pas non seulement consulté, qui n'a pas fait participer et qui n'a pas aussi mené cette étude d'impact environnemental avec des aspects transfrontaliers. Et donc, ces projets qui sont en train d'être exercés au niveau de Tulenga comme Kingfish sont des projets illégaux et qu'il faudra donc suspendre. C'est pour cette raison que l'Ouganda et la RDC sont mis devant la barre pour ce genre de responsabilité. Mais aussi l'autre aspect, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui, dans son charte, il est dit que toute ressource qui est transfrontalière, avant toute exploitation, il faut des consultations, mais aussi des assises qui devront définir la participation, consultation, mais aussi prendre des mesures nécessaires pour protéger non seulement les écosystèmes, mais aussi protéger les droits des communautés locales. Et dans les cas d'espèces, on a constaté septembre 2025 ces dégâts. Et légalement, il faut constater que la communauté n'a pas pris les mesures nécessaires pour se rassurer que les États sont en train de respecter la charte à ce qui concerne les questions environnementales pour les droits des communautés locales. Et donc, le secrétaire général devrait aussi comparaître.
La plainte est déjà enregistrée par la Cour de justice de l'EAC. Qu'est-ce qui pourrait suivre, d'après vous, après, et à quoi vous vous attendez exactement de cette action judiciaire?
Ce qui pourra suivre, c'est l'instruction du dossier. La référence a été déjà signifiée, communiquer régulièrement à l'État congolais, à l'État ougandais et au secrétariat général de l'EAC. Donc, le secrétariat donc pourra répondre aux objections soulevées, amener des contributions en termes d'amélioration de sauvegarde sociale par rapport à ces litiges.
Monsieur Olivier Ndole, merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.